Je me présente, Henri Noat, je dirige une société, Cézine, qui s'occupe de gestion de processus et gestion d'objets documentaires. Donc on a 250 clients, 200 000 postes installés dans le monde et on traite en gros 2 milliards de documents. Donc on est reconnu par nos pairs et par le Gartner Group comme un centre d'innovation. Et donc, on a essayé de développer des nouveaux concepts dans nos systèmes. Alors, on va vous montrer comment on les a appliqués dans le domaine médical et donc le maintien de personnes fragiles à domicile. Alors, entre autres, nous avons réalisé pour Stecma les gammes de montage des moteurs. Et sont une gamme de montage. Vous savez ce que c'est qu'une gamme? Donc, c'est une suite d'opérations avec un certain nombre d'informations à manipuler et des actions à réaliser. Et donc, nous gérons les gammes de moteurs de Snecma. Nous faisons six moteurs d'avion par jour et un moteur d'Ariane par mois. Et vous en parle parce que vous allez voir que la façon dont nous avons pris le maintien de personnes fragiles à domicile, les gammes, l'expérience qu'on en a des gammes s'applique totalement. Donc, nous avons essayé de définir qu'est-ce que c'est que la définition de la personne à domicile. Vous avez une personne perdue dans son village, dans un coin un peu isolé, et qui va devoir faire appel à un certain nombre de compétences, le CLIC, l'hôpital, le médecin traitant, l'informaticien installateur, le pharmacien, l'infirmière à domicile, et puis maintenir des contacts avec la vie sociale, rester dans la vie sociale et sa famille. Et cette personne fragile, on ne parle pas de malade, on parle de personne fragile, donc personne âgée ou personne qui a une maladie chronique. Elle a, dans notre approche, elle a un projet de vie, veut être soignée chez elle, et elle passe un contrat avec son médecin traitant où elle va s'engager, on va faire dire quel est son état dans la pers à un instant T, et elle va s'engager à avoir une discipline de vie, à suivre un régime, à prendre des médicaments, à faire de l'exercice, etc. Et moyennant quoi? Le médecin va, en lui apportant des services, en coordonnant des services de soins et de suivi, en veillant à son insertion sociale, on va essayer de la faire vivre le mieux possible à domicile, de faire en sorte que sa pathologie n'entrave pas trop sa vie. Et on va lui appliquer des soins pendant un certain temps. Et puis à la fin de l'année, on fait un bilan. De manière à comparer le bilan par rapport à l'année N et l'année par rapport à l'année précédente. Ce projet de vie qui est ce contrat, on va essayer de suivre en fait comment on va suivre ce processus de soins, de suivi de sa insertion sociale, de suivi de comment on va l'aider à respecter sa discipline de vie et comment on va comparer, suivre l'évolution de son état d'année en année pour que, bon, un jour ou l'autre, il est exact que nous serons tous vieux et nous rentrerons tous dans le cinquième âge, mais on va essayer de prolonger cette vie, ces soins intermédiaires le plus possible. Donc on voit bien apparaître un processus de contrat, état de la personne, suivi des soins et de l'insertion sociale, discipline de vie, et puis bilan et un processus interactif qui tourne jusqu'à ce que la personne soit en maladie aiguë. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un service? Nous avons essayé de le définir. Donc, on a un opérateur accrédité, la CNAM, le CNR, etc. Et le service va se décomposer en services élémentaires. Et ce service élémentaire, ben, c'est une prestation associée à un dispositif qui est mis en œuvre. Et on a bien une combinaison de personnel, de support physique, de prestations et de clients. Ça, c'est donné à une personne. Une personne peut avoir plusieurs services, donc elle va consommer services. Et en fonction de son état, le médecin, le thérapeute, va choisir quel service appliquer à la personne. Donc on voit apparaître un système d'information classique avec des relations comme on a l'habitude d'en avoir. Donc on va, la définition du service, c'est un ensemble élémentaire de combinaisons de prestations et de dispositifs. Et pour soigner la personne, on choisit dans un bouquet de services quels sont les services que l'on applique. Merci. Donc la démarche que nous allons adopter, il y a plusieurs points de vue. On a regardé une logique d'action. Donc on a un cas d'utilisation, un processus d'activité qui va aboutir à un service et une gamme associée à une solution service. Donc peut y avoir une logique des services qui vont s'appliquer dans le monde médical et des services qui vont s'appliquer dans le monde social. Donc deux logiques, logique médicale, logique sociale. Donc pour la logique médicale, mettre des dispositifs techniques et les mettre à la disposition des personnes fragiles. Et pour la logique sociale, établir le diagnostic environnemental et établir des grilles d'évaluation et de suivi de mise en œuvre. Donc, on a défini donc ces deux logiques. On va regarder maintenant, il y a d'autres plans d'action possibles. Donc, la logique médicale pure, donc on va faire une observation de quoi la personne a besoin, une intervention, donc un examen, une décision, un plan de soins et des soins courants. Donc, on va mettre en place des dispositifs techniques permettant à un professionnel de santé d'effectuer la télémédecine. Réalisation des consultations à domicile ou de suivi des capteurs à domicile, mais il y aura toujours une interprétation, soit en cas d'alerte, soit une interprétation régulière des résultats donnés par ces capteurs, pour mettre en place un plan de soins adapté à la personne et arriver à éduquer la personne dans son suivi thérapeutique ou éduquer son entourage. Le deuxième point, c'est que mettre à disposition des médecins et du praticien les comptes rendus. Donc le système doit pouvoir communiquer facilement aux praticiens qui traitant le compte rendu ou les alertes ou le compte rendu. Et aussi bien pour le médecin que pour l'infirmière, pouvoir réévaluer régulièrement le patient. Est-ce que le traitement en cours, le plan de soins est adapté à son état? Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation? Donc un suivi permanent de ce processus de mise en œuvre de la logique médicale. Donc au niveau social, c'est une logique d'assistance et d'accompagnement. Donc nous avons la suite d'opérations observation, réévaluation, conception, prescription, ajustement, accommodation et l'utilisation du suivi. Donc faire le bilan médico-social de la personne. Dans ce monde, d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'équivalent au médecin traitant pour essayer d'évaluer la position sociale de la personne. Position sociale, c'est que le malade peut être chez lui. Et on veut éviter qu'il soit coupé de la vie sociale. Donc, dans le groupe de travail auquel on a participé, on a préconisé la création d'un poste de référent qui va suivre le référent. C'est la personne qui va s'occuper de la personne fragile sans aucune autorité sur lui, mais qui va l'aider dans ses démarches, l'assister et essayer de voir les points déficients de sa position sociale. Donc faire le bilan médico-social de la personne, donc ça va être fait avec le référent, réévaluation régulière des bilans, définir le projet de vie, donc quel est le contrat comment la personne peut vivre chez elle avec sa pathologie ou avec ses handicaps de vieillesse, suivre et ajuster dans le temps les outils à l'usage, et puis assurer la surveillance et les remontées d'informations. Et puis en même temps, le référent s'occupe de faire le bilan environnemental, qui est donc est-ce que son espace de vie, son foyer est assez équipé, de quoi elle a besoin, si elle ne peut pas se déplacer, comment elle ouvre la porte, comment elle éteint les lumières, etc. Donc réévaluer régulièrement le bilan environnemental de la personne et mettre en place les outils, les dispositifs d'aménagement. Comment l'aider à vivre chez elle, est-ce qu'elle est mobile, est-ce qu'elle est, elle doit être assistée, est-ce qu'elle a un début d'Alzheimer, etc. À chaque pathologie, entre guillemets, elle n'est pas malade, mais elle a des insuffisances, quels sont les moyens techniques que l'on peut apporter pour lui permettre de vivre de manière plus agréable et normale chez elle dans son foyer. Et puis, logique participative, on va demander à la personne de se prendre en charge. On va l'aider, on va mettre en place des outils qui vont lui permettre de vérifier, de lui rappeler qu'elle a un régime à suivre, des médicaments à prendre, qu'elle a un poids à surveiller, des quantités d'eau à boire, etc. Donc, c'est mise en place d'outils et de dispositifs qui vont permettre le suivi et le contrôle de sa vie quotidienne. Donc, faire connaître, là aussi, on va définir un bouquet de services qui vont lui apporter une aide à la vie chez elle. Donc, dans le dernier point, la nécessité devant les multiples intervenants qu'il y a, les différents points de vue et les différentes logiques d'intervention, une logique de coordination du point de vue clinique, du point de vue assistance et du point de vue institutionnel. Alors, du point de vue clinique, c'est définir et mettre en place le contrat de service, suivre administrativement les contrats de service et suivre la mise en place d'ingénierie financière, c'est-à-dire la demande d'aide. Est-ce que la personne a bien fait son dossier d'APA? Où en est son dossier d'APA? Est-ce qu'il est suivi? Quelles sont les informations à tirer du conseil général, etc. Donc, il y a tout à suivre. Et puis, en même temps, établir les factures, les feuilles de soins des différents intervenants qui interviennent au domicile. Dans cette logique de clinique, il y a aussi le suivi de la qualité des interventions. Qui peut juger, qui va juger que les interventions au domicile sont bien faites, qu'il n'y a pas un laisser-aller ou que le ménage a été fait correctement. Donc ça, c'est une interrogation qu'il faut avoir. Dans tout dispositif, il faut pouvoir juger de la qualité. Et notre système a prévu donc un organisme qui va suivre la qualité des services rendus. Le deuxième point dans la logique de coordination, c'est l'assistance. Donc, c'est définir et mettre en place le contrat de service avec une expression du contrat. Et dans chacun des domaines de la vie, essayer de qualifier, de quantifier l'état de la personne. Donc, pour ça, on s'est appuyé sur les codes OMS qui définissent très bien les différents domaines de la vie à prendre en compte. Donc, mettre en service un plan d'assistance à domicile, transformer le plan de service en ordonnancement, mettre en place une démarche qualité, j'en ai bien parlé, faire l'évaluation globale et la gestion des différents cas et des différentes alertes possibles, recueillir les différents plans et les prescriptions, et faire une coordination, une régulation des professionnels et des intervenants au domicile, donc avec une optimisation des ressources. Et puis, du point de vue institutionnel, il y a des programmer et mettre en œuvre les différentes ressources à établir, établir les factures et gérer les approvisionnements, gérer le fonctionnement continu du système, donc vérifier qu'il marche bien, prévoir les cas de panne et les cas de dépannage. Donc, si on essaye de faire un tableau des synthèses, donc on a essayé là de refaire les différentes logiques médicales, assistance, logique d'assistance, participation, coordination et support, et puis les compétences qu'il faut, les professionnels médicaux, les personnes et le référent. Donc, dans chaque case, on a essayé de définir quelles informations étaient gérées et de quoi nous avons besoin pour apporter, atteindre la logique d'intervention et avec quelles compétences nous avons besoin, quel professionnel intervient, est-ce que c'est du domaine du professionnel, de la personne ou du référent. Alors, donc vous voyez qu'on aborde, en fait, c'est une vue multidimensionnelle des interventions avec plusieurs compétences et plusieurs logiques d'intervention. Alors, comment, dans la définition, comment on va pouvoir définir les processus de mise en œuvre et d'intervention au niveau de ce projet, ben, nous avons adapté les gammes. Donc, on va définir qu'est-ce qu'une gamme d'abord. Donc, une gamme, c'est une suite chronologique d'opérations à réaliser pour produire un service par une ou plusieurs personnes ayant des compétences requises. Donc, c'est aussi une définition du mode opératoire de chaque opération pour produire un service. Quand je veux produire un service, qu'est-ce que je dois faire ? Quelles ressources je dois utiliser pour chaque service, médicaments, dispositifs médicaux et techniques? Quels sont les outils dont j'ai besoin pour faire ce service? Et quels sont les documents, les renvois des savoirs, des savoir-faire ou des moyens d'accès dont j'ai besoin pour faire ce service? Donc la gamme va me détailler tous ces éléments. Donc, dans le modèle, HOST, qui est un modèle qui est présenté par un groupe de travail présidé par M. Picard, je pense qu'on va vous en parler dans d'autres sessions. Donc, le modèle HOST va nous donner un moyen pour structurer les besoins de la personne fragile soignée à domicile, va nous permettre de faire ressortir les compétences nécessaires à chaque étape, les incohérences ou les manques, va nous permettre d'unifier les différentes nomenclatures, la grille Agir, les normes OMS, l'AFNOR, des établissements, les tables des services et les compétences nécessaires, et va nous permettre de déterminer les besoins des systèmes d'information associés. Et en fait, on va essayer de créer un modèle qui servirait de norme, c'est-à-dire une base de comparaison entre une gamme théorique, c'est-à-dire un cas théorique de mise en œuvre, et le cas réel appliqué à un patient. Donc, la structure de la gamme et de ses différents liens, donc, d'après le modèle HOST, donc organisation, on va définir donc, les moyens d'entrée dans l'espace de la personne normale ou pas, c'est-à-dire comment, mettons à la sortie de l'hôpital ou à l'occasion d'une visite chez son médecin référent, comment on va l'orienter en fonction de la pathologie découverte, c'est-à-dire qu'on va faire un bilan avec une grille Agir. On va définir entre le patient et son médecin traitant quel est le projet de vie, c'est-à-dire est-ce qu'on l'oriente dans un établissement de soins parce que l'état est dégradé ou est-ce qu'on essaye de la maintenir à domicile, la soigner à domicile. Donc on va regarder la classification des établissements et on va essayer de faire en examinant ce qu'on a appelé le dossier référentiel d'observation FIF, c'est-à-dire code OMS par code OMS, quel est l'état de la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule, de quoi elle a besoin dans chacun des domaines définis par l'OMS, est-ce qu'elle a besoin d'une assistance ou pas. Donc ça va nous permettre d'orienter la personne et de définir de l'ensemble des besoins, c'est-à-dire de choisir dans les bouquets de services quels sont les services qu'on va appliquer. Ensuite, pour chacun des services, on va essayer de définir les moyens de compensation de participation. Donc on va prendre la nomenclature des services et on va dire eh bien, la personne a du mal à se déplacer, donc il lui faut un fauteuil roulant, il lui faut une aide à la maison, etc. Donc on va définir dans chacun des points faibles définis dans le dossier référentiel du CIF, quels sont les moyens et les processus d'intervention. Par exemple, la personne a un diabète, donc je vais suivre sa glycémie. Pour suivre sa glycémie, j'ai besoin d'une machine auto-check, de manière à l'avoir en permanence. Et je vais définir une alerte. Si la glycémie dépasse 2 ou 1,8 ou 1,4, j'envoie un mail au médecin disant attention, il y a une dégradation, ou si cette glycémie est maintenue pendant 3 jours à 2, je déclenche une visite au domicile du médecin. Donc on va définir les processus d'intervention service par service. Donc à partir du moment où j'ai défini ces services et ces processus d'intervention, je vais pouvoir définir les technologies à mettre en œuvre. Il faut une machine à Q-check pour pouvoir faire la glycémie. Définir donc comment je vais l'installer au domicile du patient, comment elle va communiquer avec le malade ou avec son dossier médical, etc. Et comment je vais bâtir, définir l'architecture de mon système au domicile avec les différentes fonctions, les informations à gérer, l'ergonomie, demander au système, enfin proposer au malade, enfin à la personne fragile, et je vais bâtir cette technologie et je vais définir comment je vais la mettre en œuvre. Et puis à partir du moment où j'ai fait la technologie, eh ben je vais avoir le coût du système personnalisé aux besoins de la personne fragile, et donc je vais définir les demandes d'aide. Comment je vais financer la demande d'aide, qu'est-ce que je vais facturer, qu'est-ce que la personne va payer, qu'est-ce que l'aide va prendre en charge, et donc suivre les demandes de toute la partie économie et suivre comment financer le système. Et puis dans un dernier temps, quand le système aura vécu un an, je vais essayer d'évaluer quelles sont les informations dont j'ai besoin pour faire le suivi et l'évaluation du système de compensation que j'ai défini, que j'ai bâti. Et donc, je vais revenir au bout d'un an sur les grilles Agir et le dossier d'observation CIF pour pouvoir comparer est-ce que la personne a un état dégradé ou est-ce qu'elle s'est maintenue pendant cette année. Donc voilà, en gros, comment la gamme va me permettre de construire le système, de réagir, et comment elle va me permettre de gérer les liens et la récurrence de ce système.
Il vous reste 5 minutes pour conclure et laisser...
D'accord, mais c'est bon. Donc voilà un exemple de la gamme que l'on a faite. Hein. Installation du système du projet de vie, concertation avec la famille, diagnostic, enfin il y a toute une arborescence. Chacune des lignes, on va accélérer, chacune des lignes, est détaillé, hein, par exemple diagnostic médico-social, rendez-vous avec le CLIC. Donc on a défini les responsabilités, les participants à ce rendez-vous, les conditions d'entrée, les documents en entrée, les outils nécessaires, les informations nécessaires, les documents en sortie, les conditions de sortie, et est-ce que l'opération et la protection, l'opération, est-ce qu'elle est confidentielle ? Oui, parce que on va traiter des informations médicales, donc on va protéger ces informations. Donc le système, on arrive à un système tout à fait classique. Hein. À l'intérieur de la maison, on a des systèmes de capteurs qui vont envoyer des informations qui vont être suivies par des processus au niveau de la centrale de gestion, qui va suivre donc les alarmes, les dossiers et qui va organiser les soins. En cas d'alerte médicale, c'est la centrale de prévention, l'hôpital, l'EHPAD, avec la gestion du dossier médical qui va prendre en charge les soins. Au domicile de la personne, donc installation d'abord le carnet de santé communicant qui va permettre de suivre les différents paramètres collectés, qui va permettre de suivre les éléments importants et les renvoyer vers le dossier à l'hôpital, donc une mise à jour permanente des différents dossiers. une webcam avec un système de visioconférence qui va permettre à la personne de se maintenir en contact avec ses amis et sa famille, et puis un portail numérique social qui va lui permettre de garder une activité sociale et des liens avec, avec l'extérieur, avec ses amis et les activités de sa commune. Donc une ergonomie, un système communicant pour tous les intervenants, intégrant la mobilité, donc utilisation du téléviseur comme moyen de communication, protection des données sur les postes de travail pendant leur stockage. Et là, nous avons déposé des brevets assez importants sur des nouvelles méthodes de cryptage au niveau du dossier médical et du carnet de santé. Donc un service intégré de communication, intégration de la mobilité, du carnet de santé, suivi des interventions à domicile par un journal électronique mariant le papier et les textes, recommandations médicales personnalisées avec des guides de bonnes pratiques adaptés à l'état de la personne fragile, un suivi de la prise des médicaments et communication en temps réel avec le praticien par un pilulier, et puis des processus personnalisés d'alerte en fonction de capteurs, des résultats des capteurs. Donc ça, une coordination par le centre des appels et une gestion des processus au niveau du centre des appels, avec des processus personnalisés. Une ergonomie très simple, on traite le cas des malentendants et des non-voyants. Allez-y. Voilà, donc c'est un système qui est en cours de développement et en cours d'installation en Corse.
Bonjour, Ilyes Lemine. Donc, Ilyes Lemine de l'école d'ingénieurs informatique et système d'information de santé de Castres. Ma question porte d'une part sur votre matrice logique et compétences.
Compétences, oui.
Et dans cette classification que vous avez choisie pour identifier les compétences, donc, je vois apparaître personne et là, j'arrive plus à suivre cette logique. Personne pour vous, est-ce que ce sont les praticiens, c'est tous les intervenants qui intègrent à la fois les professionnels donc, et ma deuxième question, c'est concernant le référentiel que vous avez mis en place pour voir s'il est exploitable.
Alors la personne, c'est le... La personne fragile, c'est la personne qui est soignée, elle intervient dans le dispositif parce que elle doit se prendre en charge. Donc elle a son dossier médical, son dossier social, des services d'insertion sociaux. Bon, elle répond, elle a une plateforme d'appel possible. Donc elle est partie prenante. Les personnes fragiles sont des membres actifs du système de soins. D'accord, ce ne sont plus des gens passifs. C'est pas un malade qui reçoit des soins comme on a tendance à le prendre maintenant. C'est pas un malade, c'est une personne qui a des pathologies, qui se prend en charge et qui essaye de vivre normalement avec sa pathologie. Je rejoins mon collègue qui a intervenu précédemment. C'est, je pense, une grosse évolution de la façon dont on conçoit les soins aujourd'hui. Les gens, je ne veux pas les dire, ce sont des malades, ce ne sont pas des malades, ce sont des personnes fragiles qui sont prises en charge.
Oui, je partage tout à fait cette vision, tout simplement parce qu'au début, vous, dans votre modèle conceptuel, vous avez fait apparaître cette notion de personne.
D'accord.
Qui est à la fois consommateur d'un service... et donneur de service. Donc là, je ne me suis plus retrouvé dans cette matrice. Et le deuxième point qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce référentiel que vous avez mis en place, où vous êtes passé rapidement avec...
La suite des opérations.
La suite des opérations. Je voulais savoir, est-ce que vous le mettez à disposition? Est-ce qu'il y a une possibilité de le...
Oui, on peut
réutiliser.
Je pense que mes coordonnées seront envoyez-moi un mail et puis on vous donnera.
Et là, ce référentiel, la validité de cette référentiel se limite uniquement à cette région, là où vous allez appliquer...
Non, 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 nous, on fait un système pour pouvoir le mettre en place dans le maximum de régions. Hein.
D'accord. Alors, quelle est la méthode que vous avez utilisée, adoptée, pour mettre en place ce référentiel?
Alors, nous sommes partis d'études de groupes de travail qui ont réuni les praticiens sur le terrain, des praticiens libéraux, des praticiens hospitaliers, les infirmières, sous la coordination de l'ARS. Et donc les groupes ont défini quels étaient leurs besoins, ce qui est important, c'est que dans ce groupe de travail, il y avait aussi des personnes fragiles, des anciens médecins retraités, qui n'étaient plus en activité, des fonctionnaires à la retraite, des salariés à la retraite, et qui ont participé à ces groupes de travail, qui ont mené la réflexion tous ensemble autour du système. C'est eux qui ont défini le système.
D'accord, donc c'est plutôt basé sur...
C'est un travail collaboratif de réflexion qui mêlait des personnes destinataires du système et des praticiens de terrain.
Oui, bonjour. Juste pour compléter la précision que vous avez apportée sur personne, les aidants familiaux, ils se situent où dans votre matrice? Est-ce qu'ils sont aussi dans la colonne personne, ou est-ce que la personne est uniquement la personne qui est destinataire?
Non, non, la personne, c'est famille et personne, aidants familiaux.
Parce que ce n'est pas exactement les mêmes problématiques.
Non,
Il y a effectivement la personne qui est atteinte de la pathologie. Voilà. Et les aidants familiaux qui ne sont atteints de rien du tout.
Oui, et qui sont lourdement mis à contribution.
Exactement, voilà.
Donc,
et sur lesquels parfois repose une grande partie des services.
Tout à fait.
Qui vont être un acteur essentiel dans la chaîne de services pour délivrer le service in fine à la personne.
Là, on est parti un peu dans l'esprit méditerranéen où la famille et la personne font un tout.